Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel. Il est 14h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner. Bonjour à toutes et à tous. Joseph Kabila annonce à plusieurs organes de presse son retour imminent en République démocratique du Congo. Un retour par l'Est. Après des mois d'éloignement, l'ancien président accusé d'être derrière le mouvement M23 dit vouloir contribuer à résoudre, je cite, la déliquescence qui gangrène la vie nationale. Quelles sont ses intentions réelles? On posera notamment la question à Fred Bauma, le directeur exécutif du centre d'analyse Ebouteli. Il est notre invité. Une nouvelle journée de chaos sur les marchés financiers. Les bourses mondiales plongent ce mercredi encore avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle salve de droits de douane américains. En Afrique, Madagascar fait partie des pays les plus lourdement taxés. Mais d'importantes répercussions sont aussi à redouter pour les pays qui veulent emprunter sur les marchés des obligations. Les victimes de Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, seront-elles véritablement indemnisées? Hier, la Cour pénale internationale a confirmé en appel 52 millions d'euros de réparation censés bénéficier à environ 50 000 parties civiles. Ongwen ayant été déclaré indigent, c'est le fonds au profit des victimes de la CPI qui doit payer. Mais pour l'heure, ses caisses sont vides. Officiellement installé depuis l'an dernier en Afrique australe, accusé par le pouvoir de Kinshasa d'être derrière le M23, l'ancien président congolais Joseph Kabila est sorti hier une nouvelle fois de son silence. Dans une déclaration écrite, il a annoncé son retour prochain en RDC. Mais quand va-t-il rentrer? Où et pourquoi faire? Beaucoup de questions restent en suspens. Patient Ligaudy.
Oui, à ce stade, ni la date ni l'itinéraire précis de ce retour ne sont communiqués. Pour son entourage, ses informations relèvent de la sécurité. L'idée d'un passage par Goma, avancée par Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de l'opposant Moïse Katumbi, n'a pas été confirmée. La ville reste exposée à des violences et toute entrée par cette zone nécessiterait des garanties, même au niveau régional, explique une source. Ce qui est retenu, c'est que le retour doit se faire par la partie orientale. Plusieurs options sont encore envisagées, même l'activation d'un autre front hors Nord et Sud Kivu. À ce stade, aucune décision définitive n'a été arrêtée. Dans son camp, ce retour est présenté comme un tournant politique majeur, un milestone, comme le qualifient certains. Ses proches disent qu'il s'agirait, je cite, d'un retour d'un civil avec un passé militaire assumé et revendiqué. Un retour destiné à marquer une nouvelle étape, un changement profond. Fin de citation. Quant au calendrier, il reste suspendu à l'évolution de la situation sécuritaire décrite comme instable et imprévisible. Enfin, si l'AFC M23 ne s'est pas exprimé, plusieurs proches de l'ancien chef de l'État reconnaissent l'existence d'un lien avec ces mouvements politico-militaires sans en détailler la nature.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, on appelle Fred Bauma, le directeur exécutif de l'Institut de Recherche Ebouteli. Il est notre invité dans ce contexte sécuritaire, toujours très incertain. Le président Tshisekedi avait initié à Kinshasa des consultations politiques, officiellement destinées à jeter les bases d'un gouvernement d'union nationale. Ces consultations, une partie de la classe politique les a boycottées. Les entretiens conduits par le conseiller spécial du chef d'État en matière de sécurité se sont achevés hier, Pascal Moulégois.
Sans grande surprise, les principales figures de l'opposition ont décliné l'invitation du président de la République. Une exception, l'ancien premier ministre Adolphe Muzito, dont les récentes prises de position ont laissé présager ses rapprochements. D'autres personnalités moins connues du grand public, comme Moïse Monidela et Jeannot Lompépé, ont répondu à l'appel. Plus de 90% des participants à ces consultations provenaient de la majorité présidentielle, chacun venant défendre les intérêts de son propre parti. Vital Kamerhe s'est distingué en plaidant pour une approche plus inclusive, mettant l'accent sur la nécessité de dialoguer en priorité avec les acteurs impliqués dans les conflits qui ravagent l'Est du pays. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a pour sa part exprimé des réserves quant à la formation d'un nouveau gouvernement. Il a proposé le maintien de l'équipe actuelle et enrichi de nouvelles figures jugées compétentes. Le conseil spécial devrait remettre son rapport au président Félix Tshisekedi dans les prochains jours. Reste à savoir si cela débouchera sur la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale que le chef de l'État souhaite comme levier pour affronter les défis sécuritaires dans l'Est. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Le conflit dans l'Est de la RDC était aussi l'un des sujets au cœur de la tournée du nouveau conseiller Afrique de Donald Trump. Après la RDC, après le Kenya, après l'Ouganda, Massad Boulos était hier à Kigali, au Rwanda, pour la dernière étape de son déplacement dans la région des Grands Lacs. Il y a rencontré le président Paul Kagame. Pour lui, priorité au dialogue, Lucie Mouillot.
Selon Massad Boulos, trouver une solution au conflit à l'est de la RDC est essentiel afin de favoriser l'essor d'une économie régionale prospère. Questionné sur d'éventuelles pressions des États-Unis sur le M23 et l'armée rwandaise au Nord Kivu, le diplomate a plutôt voulu insister sur l'importance du dialogue entre les parties.
Nous ne sommes pas impliqués dans ces détails, ce sont des affaires internes. Les parties concernées sont engagées dans un dialogue. Ce n'est pas une question de pression ou d'absence de pression, c'est une question de paix. Nous souhaitons voir la paix s'installer et nous pensons qu'il y a de bons signes dans ce sens. Nous aimerions voir une paix durable et une stabilité dans la région et en RDC.
Le conseiller est également revenu sur la suspension suite aux avancées du M23 des opérations de la société minière américaine Alphamine dans les gisements d'étain de Béziers.
Un tel acteur sur la scène mondiale, c'était très triste de les voir suspendre leurs opérations. Nous avons vu les progrès réalisés ces derniers jours et c'est excellent. Ce sont des questions purement internes. Nous espérons qu'ils poursuivront le dialogue et continueront dans la bonne direction.
Nous soutenons la sécurité et l'intégrité territoriale de tous les États de la région d'Afrique des Grands Lacs, assure Massad Boulos, ajoutant que les États-Unis restent engagés dans l'effort de paix. Lucie Mouyo, Kigali, RFI.
C'est une nouvelle journée de tempête sur les bourses internationales. Les marchés plongent ce mercredi encore avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle salve de droits de douane américains, dont un taux supérieur à 100% pour la Chine, qui annonce en riposte ce matin des droits de douane de 84% pour les produits américains. Cette guerre commerciale lancée par Donald Trump aura également des répercussions en Afrique. Alexis Bédu, pour plusieurs pays, il s'annonce notamment plus difficile d'emprunter sur les marchés obligataires. On parle de ces marchés où les États émettent des obligations, de la dette que des investisseurs peuvent acquérir.
Oui, le risque principal, c'est que les investisseurs anticipent l'appauvrissement de ces pays et doutent un peu plus de leur capacité à rembourser. Prenons par exemple la Côte d'Ivoire qui a fait un retour réussi sur les marchés obligataires l'année dernière. Nouvelle taxe douanière de 21% pour exporter aux États-Unis, donc plus de difficultés à vendre le cacao outre-Atlantique, baisse des recettes fiscales et moins de dollars en réserve de change. Les exportateurs de fèves de cacao écouleront leur stock vers d'autres destinations et feront entrer d'autres devises moins recherchées par les investisseurs que le dollar. D'où ces nouvelles difficultés à pénétrer ces marchés obligataires. L'effet en chaîne sera le même pour de nombreux pays du continent.
Alors, pour trouver des financements, certains pays pourraient se tourner à nouveau vers les institutions internationales.
Comme le FMI, par exemple, qui s'attend à recevoir de nouveaux appels pour renégocier les programmes de financement. C'est le cas du Kenya, dont l'industrie textile sera touchée, de l'Angola et son pétrole désormais surtaxé. Il y aura aussi de nouvelles demandes, potentiellement de la part du Gabon ou de l'Ouganda. Le FMI essaye de rassurer. Il a déjà pris des mesures pour augmenter ses ressources afin d'aider les pays à faible revenu, déclarait hier à Dakar ABB Selassie, son directeur Afrique. Les chefs d'État africains devront tout de même trouver d'autres solutions, nous glisse un analyste. Cela peut passer par des emprunts sur les marchés financiers locaux et surtout par un puissant coup d'accélérateur au commerce intra-africain.
Parmi les pays d'Afrique les plus touchés par la hausse des droits de douane américains, Madagascar, 47% de taxes depuis ce matin en principe sur les exportations vers les États-Unis. Sur le continent, seul le Lesotho est plus maltraité. À Antananarivo, une séance d'information était organisée hier sous l'égide de l'ambassade américaine avec les opérateurs économiques, trois ministres du gouvernement et la direction des douanes de Madagascar. Objectif, comprendre les contours de la décision américaine et tenter de trouver un compromis avec la Maison-Blanche pour sauver, entre autres, les filières vanille et textile les plus lourdement impactées, Sarah Tetto.
Les unes après les autres, les commandes des clients américains sont annulées dans l'attente d'y voir plus clair, laissant poindre, selon les confessions de membres du gouvernement, des perturbations sociales de grande ampleur. David Rallambouffiring, le ministre du Commerce et de l'Industrie, travaille avec les autres ministères pour formaliser une demande de report de la taxe en attendant des éclaircissements au sujet de la mesure douanière.
Est-ce que les conteneurs flottants aujourd'hui vont être sujets à l'application de cette taxation ou pas ? Est-ce que le décret et l'application de ces nouvelles mesures va supplanter le régime de la Goa. L'ambassadeur des États-Unis elle-même n'a pas encore toutes les réponses. Nous sommes en train de formuler une réponse officielle de Madagascar, bien sûr jointe avec le secteur privé.
La question désormais est, qu'est-ce que Madagascar peut mettre sur la table ? Les leviers sont multiples, explique Ernest Limekan, le directeur général des douanes.
Nous, on a fait un accord de partenariat économique avec l'Union européenne et rien ne nous empêche aussi à faire pareil avec les Américains. Si le gouvernement valide, tout ça rentre dans des négociations. Mais je pense qu'il y a quand même des leviers qui pourraient faire en sorte que les deux parties soient win-win.
Les 48 prochaines heures s'annoncent décisives pour le cas malgache. Le Conseil des ministres prévu cet après-midi doit acter de la stratégie de la Grande Île face à la politique douanière protectionniste et hyper agressive de l'oncle Sam. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Il est 15h40 à Antananarivo.
Afrique Midi sur RFI.
14h40 à Paris. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, le pouvoir éthiopien nomme un nouveau président à la tête de l'administration intérimaire de la région du Tigré dans le nord du pays. La CPI confirme 52 millions d'euros d'indemnité pour les victimes de Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de la rébellion de la LRA. C'est un fonds de réparation de la Cour pénale internationale qui devra payer. Le condamné ayant été reconnu indigent, nous verrons comment ce fonds fonctionne. Et puis les sports du cyclisme en Côte d'Ivoire avec la 35e édition de la Route de l'Est internationale qui commence ce mercredi. En Éthiopie, un nouveau président a été nommé à la tête de la TIRA, l'administration intérimaire de la région du Tigré dans le nord du pays. Il s'agit du lieutenant-général Tadesse Werede, chef des forces de défense dans la province. Nommé par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, il a pris ses fonctions hier après plusieurs semaines de hautes tensions dans la région. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les accords de paix de Pretoria, qui en 2022 avait mis fin à la guerre meurtrière qui a ravagé le Tigré. Quel Alex.
Tadesse Werede est un vieux briscard de la politique tigréenne. Âgé de 67 ans, il a fait ses classes dans la lutte armée contre le Derg, le régime communiste des années 80. Puis il travaille pour le TPLF, le Front de Libération du Peuple Tigréen, qui régnera sur l'Éthiopie pendant 30 ans, notamment au sein du ministère de la Défense. Le général Tadesse était à la tête des forces tigréennes durant la guerre qui les a opposées au pouvoir fédéral de 2020 à 2022. Il jouit pourtant de toute la confiance d'Abiy Ahmed. Sur X, le Premier ministre explique inaugurer ainsi une nouvelle culture politique. Le mandat de la TIRA a été prolongé d'un an, fin mars. La fin du précédent s'est faite dans un climat de tension inquiétante. Son président ayant été ouvertement contesté par le TPLF, dont les forces armées ont fini par prendre le contrôle de villes majeures comme Adigrat et Mekele. La responsabilité qui m'est confiée est une tâche difficile mais bien accomplie. Elle est aussi une opportunité, a déclaré Tadesse Werede hier lors de sa prise de fonction. Il a signé une feuille de route en 8 points, comprenant notamment le désarmement, la démobilisation des anciens combattants ou encore l'épineuse question du retour des déplacés. Ils sont aujourd'hui plus d'un million. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Les victimes de Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de la LRA, la rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur, seront-elles véritablement indemnisées? Hier, en appel, la Cour pénale internationale a confirmé l'octroi de 52 millions d'euros de réparation, une somme censée bénéficier à environ 50 000 victimes. 52 millions d'euros, c'est une somme record dans l'histoire de la CPI. À titre de comparaison, elle s'élevait à 27 millions d'euros dans l'affaire Bosco-Ntaganda, presque moitié moins. Problème, Dominique Ongwen a été déclaré indigent par la Cour. Il ne peut pas payer. C'est donc au fond, au profit des victimes de la CPI qu'il revient de verser les réparations. Mais pour l'heure, les caisses de ce fonds sont vides, Florence Maurice.
Rassembler 52 millions d'euros, la tâche s'annonce titanesque. Le fonds au profit des victimes dépend entièrement de contributions volontaires provenant d'États partis à la CPI, parfois d'organisations internationales ou encore de donateurs privés, des contributions aléatoires. Donc, dans l'affaire Ongwen, le premier appel à financement remonte à juin 2024 et depuis, pas un centime n'a été récolté. Certes, le fonds prévoit une mise en œuvre progressive du programme de réparation par tranche de 5 millions d'euros, mais jamais depuis sa création une telle somme n'a été réunie. Un pays comme la Suisse, par exemple, verse en moyenne 50 000 euros par an. L'Allemagne a récemment annoncé une contribution de 150 000 euros, mais elle est spécifiquement destinée aux victimes de l'affaire Almadi concernant le Mali, car le fonds pour les victimes gère plusieurs dossiers en même temps et les États peuvent choisir d'orienter leurs contributions vers des affaires précises. L'affaire Ongwen, plus ancienne et moins médiatisée que d'autres, pourrait être désavantagée. In fine, à ce jour, le fonds au profit des victimes a mené à son terme une seule procédure en réparation. Dans le dossier Katanga, elle concernait environ 300 survivants et un montant total de 900 000 euros.
Au Gabon, à 3 jours de la présidentielle, la campagne électorale se poursuit. 8 candidats sont en lice, dont le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui poursuit une grande tournée dans les provinces à la tête d'une très large coalition. 8 candidats. Mais pas de réelle concurrence pour le chef de la transition, déplore plusieurs personnalités politiques. Des personnalités qui appellent donc à voter blanc, François Mazet.
Il est peut-être un des derniers leaders politiques à afficher fièrement ses nombreuses photos avec Ali Bongo. Au sein du PDG, Ali Akbar Onangai Obege a lancé une direction dissidente, hostile à la transition. Selon lui, la rupture attendue par le peuple avec les pratiques du régime déchu ne peut pas venir de cette élection.
Cette campagne, c'est une pure supercherie. Toute cette transition d'ailleurs, on le voit, c'est la reproduction de tout ce que les Gabonais ne voulaient plus voir. Une débauche de moyens, de communication comme ça se faisait avant. De toute façon, c'est la caricature de ce qui se faisait avant. Il n'y a pas de changement au niveau de cette campagne. Et donc pour cela, eh bien, il n'y a rien à attendre de la suite qui soit différent.
Ali Akbar Onangai Obege ne donne pas de consigne de vote pour samedi. Il laisse les militants avec leur conscience. Profil opposé, mais même constat. Michel Ongundu-Lunda est lui un opposant de longue date. Sa candidature a été invalidée.
Là, bon, le CTRI nous a organisé, j'ai envie de dire, un match amical entre camarades du PDG. Tout simplement parce que ce sont tous des hommes du système. Ils sont entre eux. C'est le système qui essaie de se régénérer, qui essaie de survivre. Et le vrai problème au Gabon, c'est un problème systémique. C'est désormais le système Bongo PDG CTRI. Il faut qu'on y mette un terme.
Michel Ongundu-Lunda a laissé sa procuration pour un bulletin blanc. François Mazet, Libreville, RFI.
Les sports du cyclisme en Côte d'Ivoire, la 35e édition de la Route de l'Est internationale démarre ce mercredi pour 4 étapes. Une 30aine de coureurs venus du Burkina, du Ghana, de Suisse et bien sûr de Côte d'Ivoire sont sur la ligne de départ de cette course déjà ancienne qui a toujours su dépasser les difficultés logistiques. À Abidjan, le reportage de Molamin Sissavane.
35 ans d'organisation privée en Afrique, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire. Et je pense même que nous sommes les number one.
Georges Adou, 81 ans et cofondateur de la Route de l'Est internationale, peut s'en enorgueillir. En 35 ans, le tour a traversé tant des villes que des périls. Tenté par l'abandon, les promoteurs ont résisté.
Tous les ans, on s'est dit on va arrêter. Ce qui veut dire que tous les ans, il faut se battre. Il faut trouver des partenaires qui acceptent de nous accompagner. On remet tous les jours à demain. Et le lendemain, on recommence tous les jours. Mais on n'a pas encore arrêté.
Olivier Assément, journaliste sportif, couvre régulièrement le cyclisme ivoirien depuis 15 ans. Il salue la résilience des promoteurs de la Route de l'Est.
35 ans, c'est beaucoup d'années de sacrifices. Ça n'a jamais été facile. Il fallait avoir du cran. Ce Georges Adou l'a eu. C'est débutant bien que mal avec l'apport de certaines localités pour faire vivre encore ce tour.
11 localités vont vivre la Route de l'Est cette année avec des circuits en ville. Georges Adou explique.
On vous dit que les cyclistes arrivent, chacun sort, ils s'arrêtent au bord de la route. Et puis, en une fraction de seconde, ils sont passés. C'est fini. Alors là, nous voulons quand même animer les villes, faire plaisir aux amoureux de la petite reine.
Le rêve des promoteurs est que ce plaisir demeure tant qu'existe la Nationale 1. Molamin Sissavane, Abidjan, RFI.
Il est midi 48 à Abidjan. Anne Kantner, les grands titres de ce mercredi 9 avril.
L'entrée en vigueur des droits de douane de Donald Trump, c'est pour la Chine que le coup est le plus dur, 104% de taxes sur les importations. Riposte de Pékin, des droits de douane à 84% sur les produits américains. Le président des États-Unis appelle à l'instant les entreprises à s'installer dans son pays. Mais sur les marchés boursiers, c'est toujours la panique. Paris et Francfort sont en baisse de 4% et la même tendance devrait aussi s'observer à Wall Street, qui ouvrira dans quelques minutes. Un nouveau gouvernement en Allemagne, le chancelier Friedrich Merz doit le présenter dans quelques minutes. Friedrich Merz qui a conclu un accord entre donc son parti, la CDU et les sociaux-démocrates. L'armée israélienne affirme avoir ciblé un commandant du Hamas dans une frappe à Gazaville, dans le nord du territoire palestinien. Mais selon la défense civile locale, ce bombardement a touché un immeuble résidentiel et tué au moins 20 personnes. Et puis des violences systémiques endémiques dans la culture française. Conclusion de 6 mois de travail de la commission parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles dans la culture. Pour tenter d'inverser la tendance, cette commission appelle notamment à interdire la sexualisation des mineurs à l'écran, à réglementer les castings, le travail des enfants acteurs ou encore les scènes d'intimité dans les films. Absent du Congo depuis des années, accusé par Félix Tshisekedi d'être derrière la rébellion du M23, l'ancien président Joseph Kabila annonce son retour imminent au Congo. Un retour par l'est du pays pour, dit-il, contribuer à la recherche de solutions face à la déliquescence qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale. Fred Bauma, directeur exécutif de l'Institut de recherche Ebouteli, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Fred Bauma.
Bonjour.
Quelles sont selon vous les intentions de Joseph Kabila en annonçant son retour au Congo ?
Alors il est difficile de deviner les intentions réelles de Joseph Kabila, mais de ce qu'on peut retenir de ses interventions par le passé, c'est sa volonté d'être un acteur dans la recherche de la solution et de ne pas se laisser guider ou conduire par les événements. Mais ce que je comprends aussi du message qu'il a envoyé à la presse hier, c'est qu'il essaie exactement de revenir au pays pour jouer un rôle dans ce conflit ou dans la résolution de ces conflits. Mais de quelle manière exactement, je pense que ce n'est pas très clair. De ce que je comprends au moins, et ça demandera à ce que lui-même puisse avoir la possibilité de s'exprimer davantage et peut-être plus clairement.
Beaucoup le soupçonnent de vouloir prendre la tête d'une rébellion. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je le vois mal revenir et prendre la tête d'une rébellion. Il est quand même un ancien chef d'État qui tient sur son prestige et son rôle qu'il a joué lors de la résolution de la première crise il y a près de 20 ans. Il est possible qu'il ait beaucoup d'influence sur un certain nombre d'acteurs dans la région, y compris ceux qui ont des armes, y compris des responsables de certaines rébellions. Mais est-ce qu'il va lui-même prendre la tête d'une rébellion? Ce serait surprenant, mais ce n'est pas quelque chose peut-être à exclure.
Il dit qu'il va rentrer par la partie orientale du Congo. Est-ce qu'il va rentrer, selon vous, par les territoires contrôlés à l'heure actuelle par l'AFC M23, le Nord et le Sud Kivu, ou par d'autres régions, par le Katanga, son fief?
Alors, je pense que l'idée de dire qu'il va rentrer par la partie orientale et non pas de spécifier les lieux ni la date de son retour est un choix qu'il assume pour des raisons évidentes. Par où est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va rentrer par les zones contrôlées par les 1-23 ou est-ce qu'il va rentrer par les Katanga? On peut entrevoir beaucoup de contraintes de son retour via les Katanga, vu ses relations actuelles avec le gouvernement, vu les déclarations du président Tshisekedi qu'il a acquises de soutenir les 1-23. Mais je pense qu'il n'est pas exclu qu'il rentre aussi par d'autres zones, y compris des zones du nord-est de la RDC, mais aussi possiblement de certaines zones que le 1-23 contrôle. Il faut dire que même n'étant pas à la tête de la rébellion lui-même, il n'a pas caché sa sympathie pour les raisons qui ont poussé le 1-23 à pouvoir combattre. De là à rentrer et s'installer de cette zone, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra voir et il est la seule personne qui peut le dire clairement.
Le président Tshisekedi l'a accusé d'être derrière le mouvement AFC M23. Que sait-on des liens entre Joseph Kabila et les cadres de ce mouvement politico-militaire?
Alors, l'AFC qui est dirigé par Corné Nanga, je pense qu'il y a des liens entre le président Kabila et Corné Nanga, des liens historiques. D'ailleurs, il y a des liens, on peut le dire, entre Corné Nanga et peut-être toute la classe politique congolaise, puisqu'il a été un des chefs de la commission électorale indépendante. Maintenant, est-ce qu'il a des liens directs en ce moment avec l'AFC? Je pense qu'il a... Il a l'influence, en tout cas, sur ce mouvement et y compris sur les acteurs qui les dirigent. Je pense aussi qu'on peut comprendre d'une certaine manière les raisons qui peuvent le pousser à avoir de la sympathie envers ces groupes. Il faut dire que son exil, comme il est dit, n'a pas été forcément un choix volontaire et que le divorce avec Félix Tshisekedi a été plutôt brutal pour sa famille politique et pour sa famille biologique d'ailleurs, et que les deals qu'ils ont signés, qui n'est pas constitutionnel par ailleurs, a été violé par une partie ou par toutes les parties. Donc on peut comprendre les raisons qui le poussent à avoir de la sympathie ou avoir un contrôle ou une influence sur ces rébellions-là. Alors est-ce que ces raisons sont profondes? Est-ce que ces raisons sont acceptables? Je pense que c'est sujet à débat. Mais voilà.
Et quelles sont les relations aujourd'hui entre Joseph Kabila et le pouvoir rwandais qui soutient l'AFC M23? Les plus âgés se souviennent qu'en 1997, lors de l'offensive de la FDL qui avait conduit son père au pouvoir à Kinshasa, Joseph Kabila avait rejoint la capitale congolaise avec le chef d'état-major rwandais de l'époque, James Kabarebe, aujourd'hui sanctionné pour son rôle dans la guerre à l'Est.
Alors, les relations entre Joseph Kabila et Paul Kagame sont en dents de scie depuis des décennies. Parfois, ça va mieux et parfois, c'est des relations conflictuelles. Récemment, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a eu des liens, et au moins, il y a eu des connexions et des contacts avec le gouvernement du Rwanda. Il y a aussi des contacts, par ailleurs, avec le gouvernement de l'Ouganda et plusieurs autres gouvernements dans la région. Je pense que Joseph Kabila profite aussi du fait que le président Tshisekedi a des plutôt mauvaises relations avec plusieurs chefs d'État de la région pour pouvoir construire ou se repositionner comme une alternative potentielle. Mais ce que je crois comprendre, c'est qu'il faudra convaincre davantage des acteurs régionaux de sa bonne foi et de sa capacité à être une partie de la solution. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il devra, à mon avis, travailler.
Merci Fred Bauma. Cet entretien sera à retrouver sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. On referme cette édition à Praia. La capitale du Cap-Vert vibre tout au long de la semaine au son des musiques du monde. Avant le Creole Jazz Festival ce week-end, l'Atlantic Music Expo s'est ouvert depuis lundi. Ce grand marché permet aux professionnels de la musique, notamment aux programmateurs, de découvrir des artistes de l'archipel, du Brésil ou encore du Sénégal. Parmi eux, Leroy Pinto, cet attachant chanteur du Cap-Vert ne prône que l'amour. Notre envoyé spécial à Praia, Guillaume Thibault, l'a rencontré.
Sans forcer, avec délicatesse, Leroy Pinto chante avec son cœur et porte à même sa peau son amour pour la musique.
J'ai une phrase tatouée sur mon corps. Je vis la musique et la musique me guide.
Cet héritage musical, Leroy Pinto le tient de sa mère, de la vie quotidienne sur son île de São Nicolau.
Surtout à la maison, c'était la musique pour faire dormir les enfants. Les chansons vraiment, le gospel et tout ça, c'était à l'église.
Patché par l'oua, pourquoi ailleurs? C'est ainsi que se nomment les habitants de cette île sauvage où la puissance de la nature fait office de protection. Inspiré par le grand chanteur romantique Feu Indolobo, Leroy Pinto appelle à se méfier du paraître, du mensonge et des apparences, à prôner, à diffuser l'amour et le respect.
Je chante surtout l'amour parce que je suis très romantique.
Guillaume Thibault, Praia, RFI.
Et c'est à Praia avec Leroy Pinto que se referme cette demi-heure africaine. Cette édition était réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain Nicolas Sûr. Vous restez avec nous. On se retrouve dans deux minutes pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Vous pouvez aussi écouter une demi-heure d'informations en full day si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou bien en portugais si vous vous trouvez en Afrique lusophone. Et pour l'heure, on va écouter encore un peu Leroy Pinto.
Santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
demain.
Agressivité, jalousie, je n'arrive pas à me débarrasser de mes défauts.
Vendredi.
Question de femme, bien se nourrir quand on a perdu l'appétit.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le prix théâtre RFI.
C'est le moment pour participer à sa 12e édition. Vous êtes auteur ou autrice, vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient. Envoyez vos textes avant le samedi 3 mai minuit à l'adresse suivante prix.théâtre@rfi.fr.
En partenariat avec la SACD, l'Institut français, les francophonies des écritures à la scène, Théâtre ouvert, le CDN de Normandie-Rouen et la Ville d'Art à Saint-Louis du Sénégal.